La blessure faite à la France et à l'humanité par la profanation de Carpentras et quelques autres a suscité un examen de conscience où, malgré le désarroi et la honte, on a vu la lucidité l'emporter en général sur la passion. Dans les sondages qui ont été faits, les Français jugent que le racisme et l'antisémitisme ont repris de la vigueur, mais les réponses qu'ils donnent aux questions clés sur l'immigration et les étrangers, sur leurs compatriotes juifs, ne sont en général pas racistes. De même, on a enfin entendu, depuis Carpentras, des historiens oser qualifier d'ineptes et de périlleuses la fadaise que nous étions revenus aux années 30, au début du nazisme en Allemagne et au règne des puissantes ligues anti-républicaines et antisémites en France. Cette aberration historique satisfaisait un besoin idéologique de diabolisation, mais elle égare le diagnostic et la cure. Ce n'est pas à coup de fantasmes simplificateurs et de sermons moralisateurs que l'on guérit un mal. C'est par l'information et l'éducation, l'intelligence et non l'anathème. Car le racisme est avant tout stupide. Il ne repose sur aucune donnée scientifique. Il existe certes diverses races humaines, mais rien ni personne n'a jamais démontré que les caractères extérieurs qui les distinguent correspondent à des infériorités ou à des supériorités. Les différences de sensibilité, de comportement, de compréhension que l'on observe entre les groupes humains ont des origines sociologiques et culturelles, pas biologiques. Ce sont les civilisations qui construisent les humains, pas les races. Un Chinois ou un Africain né et élevé en Angleterre sont tout aussi anglais que les descendants de Guillaume le Conquérant. Le raciste est au premier chef un ignorant. C'est donc d'abord à l'école qu'il faut immuniser un peuple contre cette dégradation de l'esprit. Dégradation encore plus irrationnelle chez l'antisémite, car si le raciste peut se prendre au piège des apparences physiques et se figurer bêtement qu'elles traduisent des différences morales, l'antisémite n'a même pas cette excuse. En effet, il n'y a jamais eu de race juive. Les juifs éthiopiens que l'on a découverts lors de la famine de 1984 n'ont extérieurement rien de commun avec un juif polonais, français, berbère ou chinois, car il y en a. Le judaïsme est une religion disséminée entre les races les plus variées, et pour ceux qui ne la pratiquent pas, c'est une tradition culturelle et familiale, telle le christianisme pour les chrétiens peu pratiquants. Comme des juifs, il y a des chrétiens de toute nationalité. Si le patriotisme se juge à l'ancienneté, alors vous avez des juifs qui sont français ou italiens depuis le Moyen Âge, et des chrétiens qui ne le sont que depuis une génération, depuis 10 ans, voire depuis une heure. Voilà ce que l'école devrait enseigner. Claude Imbert écrivait dans Le Point la semaine dernière « La séculaire maladie du bouc émissaire n'a qu'un seul vaccin, l'éducation. Encore faut-il lui restituer sa fonction. » Or, depuis 1968, la théorie s'est répandue que l'éducation devait être non directive. Or, si elle ne doit pas être en effet un gavage inintelligent, elle n'en reste pas moins transmission d'un patrimoine intellectuel, initiation aux valeurs morales d'une civilisation. De ce fait, elle ne peut pas être entièrement non directive. En 1979, avant la diffusion par Antenne 2 du feuilleton Holocauste, le ministre de l'Éducation d'alors, Christian Beulac, dans un message aux parents et aux enseignants, leur recommandait vis-à-vis des enfants la mise en perspective, l'analyse, les références, la critique, les comparaisons et les explications. Il concluait « C'est à vous, libres et conscients, qu'il appartiendra de choisir, d'expliquer, de mettre chaque chose à sa place et la raison dessus, en un mot, d'éduquer. » On ne peut mieux définir la fonction plénière de l'éducateur.